L'avenir des retraites, répartition et croissance faible. Les systèmes publics de retraite reposent pour l'essentiel sur le principe de répartition. Les cotisations prélevées sur les salaires sont immédiatement utilisées pour payer les pensions des retraités. Aucune somme n'est placée, tout est immédiatement reversé, contrairement au système par capitalisation. Dans les systèmes par répartition, fondés sur le principe de solidarité entre générations, on paye des cotisations pour les retraités actuels dans l'espoir que nos enfants feront de même pour nous demain. Le taux de rendement est égal par définition au taux de croissance de l'économie. Les cotisations permettant de financer les retraites de demain seront d'autant plus élevées que la masse salariale aura progressé. En principe, cela implique également que les actifs d'aujourd'hui ont intérêt à ce que la masse salariale progresse aussi rapidement que possible. Ils doivent donc investir dans les écoles et les universités de leurs enfants et encourager la natalité. Autrement dit, toutes les générations sont liées les unes aux autres. Une société vertueuse et harmonieuse semble à portée de main. Quand les systèmes par répartition ont été introduits au milieu du XXe siècle, les conditions étaient de fait idéales pour que de tels enchaînements se produisent. La croissance démographique était élevée, la croissance de la productivité l'était plus encore. Au total, le taux de croissance avoisinait les 5% par an dans les pays d'Europe continentale. Tel était donc le rendement du système par répartition. Concrètement, les personnes qui ont cotisé des années 1940 aux années 1980 ont ensuite été repayées, ou le sont encore actuellement, sur la base de masse salariale incomparablement plus élevée que celle sur lesquelles elles avaient cotisé. Il en va différemment aujourd'hui. L'abaissement du taux de croissance aux environs de 1,5% par an dans les pays riches, et peut-être à terme dans l'ensemble de la planète, réduit d'autant le rendement de la répartition. Tout laisse à penser que le taux de rendement moyen du capital va se situer au cours du XXIe siècle nettement au-dessus du taux de croissance économique, environ 4,5% pour le premier, à peine 1,5% pour le second. Dans ces conditions, il est tentant d'en conclure que les systèmes de retraite par répartition doivent être remplacés au plus vite par des systèmes fondés sur le principe de capitalisation. Les cotisations doivent être placées et non reversées immédiatement aux retraités. Et de cette façon, elles pourront se recapitaliser à plus de 4% par an et financer nos retraites dans quelques décennies. Il y a pourtant plusieurs erreurs importantes dans ce raisonnement. Tout d'abord, à supposer qu'un système par capitalisation soit effectivement préférable, la transition de la répartition vers la capitalisation comporte une difficulté qui n'est pas tout à fait négligeable. Elle laisse une génération de retraités totalement sur le carreau. La génération qui s'apprête à partir à la retraite et qui a financé les pensions de la génération précédente verrait d'un assez mauvais œil que les cotisations qui s'apprêtaient à lui être versées pour payer son loyer et ses courses partent en réalité s'investir dans le vaste monde. Il n'existe pas de solution simple à ce problème de transition qui à lui seul rend une telle réforme totalement inenvisageable, tout du moins sous cette forme extrême. Ensuite, il faut prendre en compte dans cette analyse des mérites comparés des différents systèmes de retraite, le fait que le taux de rendement du capital est en pratique extrêmement volatile. Il serait bien hasardeux d'aller placer toutes les cotisations retraite d'un pays sur les marchés financiers mondiaux. Le fait que l'inégalité R supérieure à G soit vérifiée en moyenne ne signifie pas qu'elle soit toujours vraie. Quand on a suffisamment de moyens et que l'on peut se permettre d'attendre 10 ou 20 ans avant de retrouver sa mise, le rendement de la capitalisation est effectivement très attirant. Mais quand il s'agit de financer le niveau de vie de base de toute une génération, il serait tout à fait déraisonnable de jouer ainsi avec les dés. La première justification des systèmes de retraite par répartition est qu'ils sont les plus à même de garantir le montant des pensions de façon fiable et prévisible. Le taux de croissance de la masse salariale est peut-être plus faible que le taux de rendement du capital, mais il est entre 5 et 10 fois moins volatile. Il en ira de même au XXIe siècle, et la retraite par répartition continuera donc de faire partie de l'état social idéal de l'avenir dans tous les pays. Cela étant dit, cela n'implique pas que la logique R supérieure à G puisse être entièrement ignorée et que rien ne doive être changé au système actuellement en place dans les pays développés. Il y a évidemment le défi du vieillissement. Dans un monde où l'on décède entre 80 et 90 ans, il est difficile de conserver les mêmes paramètres que ceux mis en place à une époque où l'on décédait entre 60 et 70 ans. En outre, l'augmentation de l'âge de départ à la retraite n'est pas seulement une façon d'augmenter les ressources disponibles pour les salariés et les retraités, ce qui est toujours bon à prendre vu la faible croissance. Cela correspond aussi à un besoin de réalisation individuelle dans le travail. Pour beaucoup de personnes, se faire mettre à la retraite à 60 ans et s'apprêter à entrer dans une période d'inactivité potentiellement plus longue que la durée de leur carrière professionnelle est une perspective qui n'a rien de réjouissant. Toute la difficulté et qu'il existe sur ces questions une très grande diversité de situations individuelles. Certaines personnes occupant des métiers principalement intellectuels peuvent certes souhaiter rester en poste jusqu'à 70 ans. On peut espérer que leur part dans l'emploi total augmente au cours du temps. Mais il en existe beaucoup d'autres qui ont commencé à travailler tôt et qui exercent des métiers pénibles ou peu épanouissants et qui aspirent légitimement à prendre leur retraite relativement tôt, d'autant plus que leur espérance de vie est souvent plus faible que celle des personnes plus qualifiées. Le problème est que de nombreuses réformes menées récemment dans les pays développés ont tendance à ne pas distinguer correctement ces différents cas, voire à demander plus d'efforts au second qu'au premier, d'où des réactions de rejet. L'une des principales difficultés auxquelles se trouvent confrontées ces réformes est que les systèmes de retraite ont souvent atteint une complexité extrême, avec des dizaines de régimes et de règles différents pour les fonctionnaires, les salariés du secteur privé, les non-salariés. Pour toutes les personnes qui ont connu plusieurs statuts au cours de la vie, ce qui est de plus en plus fréquent pour les jeunes générations, le droit à la retraite est parfois une énigme. Cette complexité n'a rien d'étonnant. Elle résulte du fait que ces systèmes se sont souvent construits par strates successives à mesure que ces régimes étaient étendus à de nouveaux groupes sociaux et professionnels, suivant un mouvement qui, dans la plupart des pays développés, a débuté dès le 19e siècle, en particulier pour le secteur public. Mais elle rend très difficile l'élaboration de solutions partagées, car chacun a l'impression que son régime est moins bien traité que les autres. L'empilement des règles et des régimes conduit souvent à brouiller les enjeux, et en particulier à sous-estimer l'importance des ressources qui sont déjà consacrées au système de retraite et qui ne peuvent pas être augmentées indéfiniment. Par exemple, la complexité du système français fait que beaucoup de jeunes salariés n'ont pas une compréhension claire de leur droit à la retraite. Certains ont même l'impression qu'ils n'auront rien, alors même que le système repose sur un taux global de cotisation retraite très substantiel, de l'ordre de 25% des salaires bruts. La mise en place d'un régime unique de retraite, fondé sur des comptes individuels, permettant à chacun d'acquérir les mêmes droits, quelle que soit la complexité de sa trajectoire professionnelle, fait partie des réformes les plus importantes auxquelles l'État social a à faire face au XXIe siècle. Un tel système permettrait à chacun de mieux anticiper ce qu'il peut attendre de la retraite par répartition, et donc aussi de mieux organiser ses choix d'épargne et d'accumulation patrimoniale, qui, dans un monde de croissance faible, jouera nécessairement un rôle important, aux côtés du système par répartition. La retraite est le patrimoine de ceux qui n'ont pas de patrimoine, dit-on souvent. C'est exact. Mais cela ne dispense pas d'essayer de faire que l'accumulation patrimoniale puisse également concerner les plus modestes. La question de l'État social dans les pays pauvres et émergents. Le processus de construction de l'État social observé dans les pays développés au cours du XXe siècle a-t-il une portée universelle et finira-t-on par observer la même évolution générale dans les pays pauvres et émergents? Rien n'est moins sûr. Il faut tout d'abord souligner les différences importantes qui existent à l'intérieur même du monde riche. Les pays d'Europe occidentale semblent s'être stabilisés autour d'un taux de prélèvement public de l'ordre de 45-50% du revenu national, alors que les États-Unis et le Japon paraissent solidement installés à tout juste 30-35%. Cela montre que différents choix sont possibles pour un même niveau de développement. Si l'on examine l'évolution du taux de prélèvement dans les pays les plus pauvres de la planète depuis les années 1970-1980, on constate des niveaux extrêmement bas de prélèvements publics, généralement compris entre 10 et 15% du revenu national, aussi bien en Afrique subsaharienne qu'en Asie du Sud, en particulier en Inde. Si l'on considère les pays de niveau de développement intermédiaire, en Amérique latine, en Afrique du Nord ou en Chine, on observe des taux de prélèvement compris entre 15% et 20% du revenu national, inférieurs à ceux observés dans les pays riches au même niveau de développement. Le plus frappant est que l'écart avec les pays riches a continué de se creuser au cours des dernières décennies, alors que le taux de prélèvement moyen dans les pays riches a poursuivi sa progression avant de se stabiliser, de 30%-35% au début des années 1970 à 35%-40% depuis les années 1980-1990. Celui observé dans les pays pauvres et intermédiaires s'est abaissé de façon significative. En Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, le taux de prélèvement moyen était légèrement inférieur à 15% dans les années 1970 et au début des années 1980, et il est tombé à guère plus de 10% dans les années 1990-2000. Cette évolution est préoccupante dans la mesure où le processus de construction d'un État fiscal et social a été dans tous les pays aujourd'hui développés un élément essentiel du processus de modernisation et de développement. Toutes les expériences historiques suggèrent qu'avec 10%-15% du revenu national en recettes fiscales, il est impossible d'aller très au-delà des fonctions régaliennes traditionnelles. Si l'on veut faire fonctionner correctement la police et la justice, il ne reste pas grand-chose pour financer l'éducation et la santé. L'autre choix possible est de mal payer tout le monde, policiers, juges, instituteurs, infirmières, auquel cas il est probable qu'aucun de ces services publics ne fonctionnera correctement. Cela peut conduire à un cercle vicieux, dans la mesure où la médiocrité des services publics contribue à miner la confiance en l'État, ce qui en retour rend plus compliquée la mobilisation de recettes fiscales significatives. Le développement d'un État fiscal et social est intimement lié au processus de construction de l'État tout court. Il s'agit donc d'une histoire éminemment politique et culturelle, intimement liée aux spécificités de chaque histoire nationale et aux clivages propres à chaque pays. Dans le cas présent, il semblerait cependant que les pays riches et les organisations internationales portent une certaine responsabilité. La situation initiale n'était déjà pas très bonne. Le processus de décolonisation a donné lieu dans les années 1950-1970 à des périodes politiques relativement chaotiques, marquées suivant les pays par des guerres d'indépendance avec l'ex-puissance colonisatrice, des frontières plus ou moins arbitraires, des tensions militaires liées à la guerre froide ou encore des expériences socialistes généralement peu concluantes, parfois par un mélange de tout cela. Par ailleurs, à partir des années 1980-1990, la nouvelle vague ultralibérale venue des pays développés impose aux pays pauvres des coupes dans les secteurs publics et place au dernier rang des priorités la construction d'un système fiscal propice au développement. Une recherche récente, très détaillée, a démontré que la chute des recettes fiscales observées dans les pays les plus pauvres au cours des années 1980-1990 s'explique pour une large part par l'effondrement des droits de douane qui, dans les années 1970, rapportaient de l'ordre de 5% du revenu national. La libéralisation des échanges n'est certes pas nécessairement mauvaise en soi, mais à condition que cela ne soit pas brutalement imposé de l'extérieur et surtout que l'on prenne en compte le fait que cela doit être graduellement compensé par le développement d'une administration fiscale capable de prélever d'autres impôts et de trouver des recettes de substitution. Les pays aujourd'hui développés qui ont réduit leurs droits de douane à leur rythme tout au long du 19e et du 20e siècle, à mesure que cela leur semblait utile et qu'ils savaient comment les remplacer, n'avaient fort heureusement personne pour leur expliquer ce qu'ils devaient faire. Cet épisode illustre un phénomène plus général, à savoir la tendance des pays riches à utiliser les pays moins développés comme un champ d'expérimentation, sans véritablement chercher à tirer parti des enseignements de leur propre expérience historique. On observe actuellement une grande diversité de tendances à l'œuvre dans les pays pauvres et émergents. Certains, comme la Chine, sont relativement avancés dans la modernisation de leur système fiscal, avec en particulier un impôt sur le revenu concernant une part importante de la population et rapportant des recettes substantielles. Un état social, du type de ceux observés dans les pays développés européens, américains et asiatiques, est peut-être en cours de construction, avec ses spécificités et avec évidemment de grandes incertitudes quant à ses soubassements politiques et démocratiques. D'autres pays, comme l'Inde, ont beaucoup plus de mal à s'extraire d'un équilibre caractérisé par un très faible taux de prélèvement. La différence entre les deux pays est étroitement liée à la plus grande salarisation de la main-d'œuvre chinoise. L'expérience historique démontre que la construction d'un état fiscal et social et le développement d'un statut salarial vont souvent de pair. Dans tous les cas, la question du développement d'un état fiscal et social dans le monde émergent revêt une importance capitale pour l'avenir de la planète.